Philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard, le 20 février 1991.
Je vais essayer de répondre à quelques petites questions sur le cours précédent à propos de l'intellect agent. Pourriez-vous revenir ? Repréciser le rôle propre de l'intellect possible et de l'intellect agent. Est-ce une seule puissance qui est un... Oui, selon de l'expérience, de la puissance, de l'acte. Ou est-ce deux puissances distinctes qui ont chacune un rôle propre? Comprenez bien que je ne connais l'intellect possible et l'intellect agent qu'à partir de mon expérience. Ne spéculez jamais en l'air. Et comprenez que c'est à partir d'une expérience. Nous sommes partis de cette première opération élémentaire que nous avions découverte à partir du jugement. Tout le temps, à partir de là. Donc, il faut déjà comprendre que ce que j'expérimente immédiatement, c'est toujours le jugement. Le jugement, je ne peux pas rester au jugement parce que c'est un acte complexe. À l'intérieur du jugement, il y a affirmation et négation. Donc, il y a déjà une division. Et je vois qu'avant le jugement, il y a une opération simple qui est l'appréhension. Oui, c'est très important de voir cette méthode particulière qui est proche, d'une certaine manière, du structuralisme. Le structuralisme est une méthode d'architecture où l'on cherche le fondement. Quel est le fondement de ma pensée intellectuelle? C'est l'appréhension. Est-ce que j'ai l'expérience directe? Oui, à l'intérieur du jugement. Mais pas de l'appréhension en soi. J'ai jamais l'expérience d'une appréhension en soi. Même pas l'intuition. Ça pourrait dire l'intuition, au fond, c'est ça. Non. L'intuition est proche. Parce que l'intuition est un jugement formel. Mais il y a deux jugements simples. Ceci est jugement d'existence. Et puis, une intuition. L'intuition, c'est un jugement de qui porte sur une relation. Une relation nouvelle. Ça, je dis intuition. Par exemple, je saisis le lien entre on a des intuitions en art, c'est facile. Entre deux couleurs, des couleurs premières qui se donnent à moi, ou j'ai des intuitions en critique. Je vois le lien qui peut exister entre deux qualités, qui s'appellent l'une de l'autre, disposition, la disposition et l'habitus. Entre les qualités, j'ai facilement des intuitions. C'est un jugement qui reste très proche de l'aspect qualitatif. Donc, au niveau des formes, tandis que celui-ci est au niveau de l'exister. Au-delà de ce jugement, reste complexe, je pose une première opération élémentaire, simple, que j'appelle appréhension. Donc ça, c'est une opération dont j'ai conscience à partir du jugement et dans le jugement. Ça, je crois qu'on peut tous saisir ça. C'est capital. Parce que c'est déjà pas commode. Des quantités de philosophie ne l'acceptent pas. Donc il y a déjà là, au plan critique et au plan de la vie, de l'intelligence, quelque chose de capital à reconnaître. Cette appréhension est une première opération vitale, intellectuelle, donc dont le mode est l'assimilation. Parce que toute opération vitale élémentaire implique une assimilation. Une assimilation intentionnelle. Pas une assimilation biologique. Je conçois telle qualité, ce qu'est la blancheur, ce qu'est le blanc, ce qu'est la forme. L'assimilation porte toujours sur une quiétité. J'assimile une détermination, la quiétité. C'est pour ça que Saint-Homme a dit qu'on connaît toujours per modum quiditatis. C'est une affirmation de Saint-Homme, ça. Pourquoi? Parce que, comme c'est la première opération, elle conditionne tout le reste. Comme toujours. Ce qui est premier conditionne, ne détermine pas, mais conditionne. Ça conditionne toute ma vie intellectuelle. Cette première opération, de fait, implique une abstraction. Ça, je peux le constater. Le fruit, c'est de saisir une forme abstraite blanc, qui implique quelque chose d'universel. Faut constater tout ça. Autrement, je comprends pas le reste. Mais, cette première opération, assimilation intentionnelle, où je saisis une forme qui a un mode universel, qui a une signification, mais un mode universel. Et ce mode universel, je constate qu'il y en a cinq. Cinq prédicables. Tout ça, je le constate. Si je réfléchis sur ce que représente cette opération, qui m'est donnée dans le langage, si je réfléchis sur cette opération qui me donne les cinq prédicables, genre, différence spécifique, espèce, propriété, accident. Cinq modalités universelles. Toute la logique repose là-dessus. Donc c'est le fondement au plan de la vie intellectuelle. Et ça, je peux le saisir, hein, parce que je peux saisir ce terme animal dans le langage. Dans le langage, vous savez très bien ce que c'est qu'animal. Vous l'employez de temps en temps. Et même on dit c'est très curieux, dans une logique tout à fait primitive, vous dites espèce animale. Mais ça montre qu'on est tout à fait primitif quand on dit ça. Parce que espèce et animal, ce qui montre que vous êtes dans un langage mythique. C'est très curieux, ces choses-là. C'est intéressant, du reste. L'argot est très intéressant parce qu'il est mythique. Pour trouver toujours là-dessus, au point de vue logique. Parce qu'au point de vue logique, espèce d'animal, vous n'avez jamais vu une espèce d'animal. Sauf cet individu. message symbolique. Vous unissez deux choses qui, logiquement, ne vont pas ensemble. Alors, différence spécifique et espèce ne jouent que pour l'homme. La seule différence spécifique que vous saisissez, c'est rationnel. C'est pour ça que vous l'aimez tant. Et la seule espèce que vous saisissez, c'est homme. Vous ne saisissez aucune autre espèce. C'est très curieux. Donc, ce qui montre que l'assimilation est une opération intellectuelle fondamentale que l'homme réalise pour connaître l'homme. L'homme est le seul animal dont je connais la différence spécifique. Je trouve ça très beau, ce qui montre très bien que le langage est fait pour l'homme. Il n'est pas fait pour l'araignée, vous ne connaissez pas la différence spécifique de l'araignée. Vous direz que c'est un animal extrêmement irascible, puisque il mange, il mord, il suce le sang. C'est un animal très irascible. Donc, différence spécifique, espèce propre. La plupart du temps, le propre remplace la différence espèce. Et la différence spécifique. N'ayant pas la différence spécifique, je me sers de la propriété. Toutes les définitions scientifiques des classements biologiques se font par la propriété et non pas par la différence spécifique. Mais c'est là que je vois qu'au fond, la science reste assez grossière. D'accord, regardez, classification des animaux, c'est toujours la propriété. Et quelquefois les accidents, quand je ne saisis pas la propriété. Donc, il faut comprendre que tout de suite, cette première opération, elle est fondamentale, mais comme elle implique l'abstraction, elle va impliquer des degrés différents. 5 degrés d'abstraction. 5 modalités d'abstraction. Donc 5 degrés d'abstraction. C'est important de saisir ça. Et le langage me le montre. Faites une analyse du langage. Et vous verrez ça. Tout de suite. Il faut quand même expliquer ce langage dont je me sers. Et dans toutes les langues, c'est comme ça. Vous savez, animal raisonnable. Définition de l'homme, qui est une définition logique, c'est pas philosophique. Quand vous dites animal raisonnable, ce n'est pas philosophique, c'est logique. Et la logique n'est pas la philosophie, c'est un art. Et la critique n'est pas la philosophie, c'est une réflexion fondamentale sur ma vie intellectuelle. Pour qu'il y ait critique, il faut qu'il y ait philosophie. Pour qu'il y ait logique, il faut qu'il y ait philosophie. Mais ce n'est pas le point de vue proprement philosophique. Bon, alors je reviens à cette assimilation intentionnelle. Et j'analyse cette assimilation intentionnelle. Donc vous voyez, j'ai conscience de mon jugement. Je vois que le jugement implique une assimilation intentionnelle. Je vois que cette assimilation intentionnelle a des degrés différents. Et j'analyse ce qu'est cette assimilation intentionnelle. Je dis cette assimilation intentionnelle aboutit, elle aboutit de fait à un concept. Le verbe mental. Qui est exprimé par la parole. Ce concept exprime, signifie l'acuité. L'acuité de la réalité expérimentée. Je dis bien l'acuité de la réalité expérimentée. La réalité expérimentée est donnée dans un jugement qui porte sur l'existence, tandis que l'appréhension ne porte pas sur le jugement, ne porte pas sur l'existence. Elle abstrait la forme, l'acuité. Mais c'est capital de comprendre ça, parce que ça fait comprendre comment je pourrais parler d'idées innées. Si je ne cherche pas à comprendre d'où viennent ces idées, je dirais, elles sont innées. À ce moment-là, il y a un refus d'analyse. Je dis qu'elles sont innées. Je dis, moi, qu'elles ne sont pas innées. Pourquoi? Parce que je peux progresser. Donc, il y a une donnée, c'est qu'il y a un progrès. Je peux apprendre les mathématiques. Je peux entrer en philosophie. Je ne suis pas né philosophe. Bien dommage. Je le deviens. Donc je progresse. Et il y a un phénomène particulier, c'est que il y a un enseignement possible. On peut progresser. Ça, c'est très important, parce que ça montre que c'est pas inné. Alors, évidemment, le Ménon dira, « Oh, mais c'est parce que vous l'avez oublié. C'est que vous avez oublié. » Je dirais, « Non, j'ai pas oublié. J'ai besoin d'une expérience. J'ai besoin d'une expérience pour arriver à progresser et à découvrir des concepts nouveaux. » Ce concept implique donc la signification d'acuité. Ce concept a donc une signification. Il implique donc une détermination. Il implique donc une forme. Ce concept est une forme intentionnelle, fruit d'une assimilation intentionnelle. Puisqu'il est le fruit d'une assimilation intentionnelle, il implique donc au point de départ une détermination première de ma connaissance intellectuelle, je pense. Cogito, je pense. D'où vient cette détermination? Oui, le concept renvoie à une première détermination, puisque c'est un acte d'assimilation. Un acte d'assimilation implique qu'on fait du surplace. C'est ça, assimiler. La détermination du terme est présente au point de départ. Autrement, il n'y aurait pas assimilation. L'assimilation implique une immanence plénière de ma vie intellectuelle. Je pense. J'appréhende. C'est penser. C'est assimiler. Donc, il y a une première forme intentionnelle au point de départ, qui détermine une faculté, une puissance présente dans mon opération intellectuelle. Cette opération intellectuelle, je l'ai posée à partir du jugement. C'est le jugement d'existence, c'est l'intuition qui m'oblige de poser une puissance radicale en moi, qui n'est pas l'imagination. Le jugement d'existence n'est pas l'imagination. Cette puissance, puisque le jugement implique l'appréhension, cette puissance, elle est donc ce qui est au point de départ de mon assimilation intentionnelle. Je n'ai pas besoin de poser une autre puissance, notre puissance spirituelle, qui est au point de départ de mon jugement, qui est source, comme toute puissance, source, cause, immanente, efficiente, vitale, de mon jugement. Et donc, puissance également de mon assimilation intentionnelle. Puisque cette puissance est déterminée par une forme intentionnelle, je suis donc en présence de mon intellect possible. C'est cette puissance que j'ai posée à partir de mon jugement. L'intellect possible est source de l'appréhension. Et qu'est-ce qui détermine cet intellect possible? C'est cette forme intentionnelle, première, qui détermine, qui spécifie causalité formelle, ma puissance, mon intellect possible. Donc l'intellect possible, c'est tout simplement ma puissance vitale au niveau spirituel. Vous suivez? Parce qu'on descend dans la cave. Ce qui est important, oui, c'est de voir ce qu'on a fait et ce qu'on saisit directement par l'expérience. Ce qui est l'analyse d'une expérience et ce qui est posé comme inférence. Oui, ce qui est posé comme inférence, c'est la puissance. Je suis en présence d'une opération vitale. Quand je dis « ceci est », c'est une opération vitale. C'est mon opération vitale. C'est moi qui pense. Donc, puisque c'est moi qui pense, c'est dans ma vie intellectuelle quelque chose qui provient de moi. Je suis source de cette opération vitale. Je suis source de mon assimilation, de mon appréhension, à partir de mon chemin d'existence. Donc, cet intellect possible, c'est ce qu'il y a de radical, capacité radicale de mon intellect, de ma puissance intellectuelle. Je l'appelle intellect possible. Pourquoi je l'appelle intellect possible? Parce que justement, il exprime la réceptivité radicale de ma puissance intellectuelle. Ma puissance intellectuelle est ouverte à tout ce que je peux expérimenter, à toute détermination que je saisis à partir d'expérience, à la détermination au niveau genre, différence spécifique, espèce, propriété, accident. Il y a toutes ces modulations. Mais comme intellect possible, capable d'être déterminé à des niveaux différents et à toutes les déterminations. Mais possible parce que en lui-même, il n'a aucune détermination. Donc, tabula rasa. Aucune détermination. Ouvert à toutes les déterminations. Et pour être source d'un acte de connaissance, de pensée, il demande d'être actué, d'être déterminé. Et déterminé par cette forme intentionnelle. Donc vous voyez où se situe l'intellect possible. J'espère. C'est le creux de ma puissance intellectuelle que j'ai posé en premier lieu à partir du jugement. C'est le creux, c'est ce qu'il y a de plus radical, c'est ce qu'il y a de plus potentiel. Mon intelligence a besoin de l'expérience pour avancer. Alors, une fois que j'en suis là, Je cherche d'où vient cette forme intentionnelle. D'où ça vient? J'ai l'expérience que ma pensée vient de moi. Je pense. Et je pense quand je veux, si je n'ai pas trop mal à la tête. Vous venez au cours, vous voulez penser. Vous vous appliquez pour penser. Si vous ne vous appliquez pas, il y a des imaginations qui passent. Vous pensez à hier. Ah oui, hier après-midi, j'ai vu telle personne. Ah oui, c'était bien intéressant. Puis c'est votre imagination qui part dans tous les sens. Puis tout à coup, ah non, je suis un cours de philo, ça fait combien? Où est-ce qu'on en est? Tabula rasa. Ah oui, tabula rasa. Ça me dit quelque chose. Intellect impossible. Mais je me remets. Oui, alors, d'où vient cette forme intentionnelle qui est mienne? Qu'est-ce que je pense? Je pense, j'assimile blanc. La qualité de blanc qui va servir de symbole. La blancheur. Et j'en fais un symbole, la blancheur. Rouge. Lumière. C'est déjà plus subtil, lumière. Homme. Animal. D'où viennent ces déterminations? Puisqu'elles sont miennes, elles sont donc au-dedans de ma puissance intellectuelle qui les a reçues, qui a été déterminée, spécifiée par ça, et qui m'a permis de poser cette assimilation intentionnelle. D'où ça vient? C'est relié à l'expérience. Ça, c'est sûr. Or, quel est le fruit de l'expérience? C'est de former une image, une icône intérieure. L'icône, c'est l'image. L'image qui représente. Quand je dis blanc, je me représente telle blancheur. Je me représente telle blancheur. Le voile blanc des sœurs contemplatives. Blanc. C'est vrai. Le voile, les ailes d'une petite colombe. Vous voyez, j'assimile. C'est bon. Alors, le blanc d'un mur qui était très sale. Et il était blanc. Et ainsi de suite. Expérience. De représentation, je me représente. J'ai une image à partir des expériences. Le blanc de la neige. Donc je vois le lien. Comment expliquer le passage de l'icône, l'image, à la forme intentionnelle, à l'eidos? Aristote parle de eidos, la forme, ici icône. Comment passer de l'icône à l'eidos? C'est intéressant de poser la question. Parce que je constate les deux. Je constate, attention, j'ai posé la forme intentionnelle. Je ne l'ai pas constaté. Je constate le concept. Le concept, je peux le saisir. Je pose cette forme intentionnelle. Comment de l'icône rejoint la forme intentionnelle? Je tiens deux choses. Il y a deux ordres différents. L'image est au niveau sensible de la représentation. Tandis que la forme est au niveau de la signification. Donc, intelligible. Je suis passé du sensible à l'intelligible. Comment expliquer ce passage? Alors, diverses explications possibles. Ces formes intentionnelles sont innées. Des gens très intelligents l'ont dit. Le dernier grand philosophe qui a dit ça, c'est Rosmini. Rosmini qui règne à Milan. Pour voir des Rosminiens, il faut aller à Milan. Rosmini, seul le philosophe qui est le premier à parler de justice sociale, avant que l'Église en parle. Et l'Église a pris ça, justice sociale à Rosmini. On l'a mis dans les encycliques. Rosmini dit qu'il y a un concept inné, le concept d'être. Le concept d'être, ça est fou. Mais il y a un petit reste kantien. Puisque Kant dit que le concept d'être est une forme a priori. Donc il naît. Mais petit bout, c'est curieux, hein? Rosmini, bon catholique, excellent catholique, veut sauver la métaphysique. Et pour sauver la métaphysique, il dit qu'il y a une forme innée en nous, que le petit enfant dans le berceau a. Vous êtes né avec l'idée d'être, en plus de votre existence. Vous êtes né avec l'idée d'être. Vous vous en rappelez pas, moi non plus. Mais Rosmini l'a dit. Alors, est-ce que je peux accepter ça? Et à partir de cette idée d'être, toutes les autres idées viennent. Je sais pas trop comment, mais j'avais rien. Je crois qu'on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que mon intelligence devient progressivement une intelligence qui pénètre jusqu'à ce qui est dans un chemin d'existence. Mais je mets du temps. Je le sais. Je mets du temps avant d'arriver à ça. Et puis, de fait, là, je serai en opposition vis-à-vis de Thomas d'Aquin, ce qui m'ennuie. Saint Thomas dit « Primo cadit in intellectus ens ». Cadit. Donc, c'est pas inné. Si c'était inné, ça ne tomberait pas. Ça proviendrait de l'intelligence. Et de Dieu. Donc les élèves tomberaient du ciel. Comme une étoile qui viendrait marquer l'intelligence. Donc, le progrès que je fais en métaphysique semble bien que ça ne peut pas. Et puis, si je suis, et je veux suivre Saint Thomas, ça ne va pas. Donc, je ne peux pas dire qu'il y ait des formes innées. Impossible. Il faut que c'est contraire à l'expérience. Alors d'où ça vient? Ça ne peut venir que de mon expérience. Si ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas. Si c'est une forme innée, ça vient d'en haut. Dieu qui illumine. Si ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas. D'en bas, c'est-à-dire de mon expérience. Or, de fait, là encore, l'autorité, Aristote dit bien, que toute la philosophie repose sur l'expérience. Surtout la métaphysique. Surtout la philosophie première. Alors, non seulement Aristote le dit, mais mon expérience me le montre. Que je deviens progressivement intelligent. Je mets du temps, c'est sûr. Mais je deviens. Et je sais que je suis capable de faire de la métaphysique. Tous. On est tous capables. On est tous capables de remonter jusqu'à l'être premier. La foi me le dit. Si la foi me dit que je suis capable de remonter jusqu'à l'être premier et que je ne peux remonter sur l'être premier que par le point de vue de l'être. Oui, j'ai trois raisons. L'autorité, la foi, qui est encore l'autorité, et puis l'expérience du progrès. 3. cela. Il faut donc poser dans mon intelligence une capacité d'éclairer cette image. Et c'est ce qu'on appelle l'intellect agent, qui est comme une lumière intelligible au-dedans de moi, qui me permet de passer de l'image à la forme attentionnelle. Ceci a l'immense avantage de montrer que cette opération vitale de la pensée est plus immanente que toutes les autres opérations vitales. Or, il y a ceci qu'il ne faut jamais oublier. Plus je m'élève dans l'ordre de la vie, plus l'immanence est grande. Or, rien n'est supérieur à ma vie intellectuelle. Au niveau de la vie, c'est l'opération la plus digne qui soit. C'est nécessairement l'opération la plus immanente. Et grâce à l'intellect agent, j'explique cette immanence de l'intelligence. C'est bien moi qui vois, qui imagine, qui pense. Et intérieurement, j'ai la conviction qu'il y a une continuité. J'ai presque l'expérience de cette continuité. Je vois, j'imagine, je ferme les yeux, j'imagine. Et je réfléchis, tiens, oui. Ce blanc, celui que j'imagine, qu'est-ce que c'est que le blanc ? C'est une qualité. Quand je dis qualité, je suis passé de ce blanc à la détermination de blanc. C'est une qualité sensible. Et j'ai l'acuité de cette forme, qualité sensible. Je pense blanc. Ou je pense rouge, ça dépend des gens, ça. C'est pas... Je pense telle qualité. Et donc ça reste dans l'immanence. Vous voyez, encore une fois, j'accepte de dire que je ne sais si l'intellect agent que par son effet. J'ai donc fait une démonstration a posteriori qui, par le fait même, ne me donnera jamais une satisfaction parfaite. Je pose ça, non pas comme une hypothèse, c'est pas une hypothèse de recherche. C'est plus, parce que je suis parti d'un fait. J'ai constaté l'image. Je suis obligé de poser la forme intentionnelle, intelligible. Il faut montrer que cette image qui est mienne va, de fait, se retrouver dans la forme intentionnelle, mais dépouillée de tout son caractère sensible pour ne garder que l'aspect de la signification intentionnelle, intelligible. Là, je suis tout à fait d'accord que j'ai posé une démonstration a posteriori pour découvrir cette cause efficiente, intellectuelle, qui est comme la lumière. Et c'est bien une cause intellectuelle, efficiente, pure, parce qu'elle n'applique en elle-même aucune détermination. Toutes ces déterminations, elle les prend de l'image. Toutes ces déterminations, elles viennent de la forme intentionnelle. Donc voyez comment on le pose. À partir de là, vous comprenez bien que ce n'est pas une puissance distincte de la puissance intellectuelle. c'est l'impuissance intellectuelle qui apparaît comme ayant deux grandes fonctions, une fonction de réceptivité et une fonction active. Alors vous allez me dire tout de suite, ah mais alors, vous allez contre ce que on a découvert en métaphysique, ou ce qu'on découvrira en métaphysique, que l'être en acte ne peut pas être en même temps l'être en puissance. Je réponds, je ne suis pas au niveau de l'être, je suis au niveau de la vie, et la vie intellectuelle. Et dans la vie intellectuelle, il n'y a pas de contradiction à cause de l'immanence de la vie intellectuelle. Qu'il puisse y avoir une fonction radicale de passivité et une fonction radicale active. C'est pas contradictoire. Parce que je suis au niveau de la vie. Le vivant peut se mouvoir et il peut être réceptif de son action. Alors, il se meut en se déterminant, en coopérant avec l'image, en coopérant avec l'expérience. Je coopère avec l'expérience, je coopère avec l'image pour me déterminer grâce à l'intellect agent. Et quand j'ai cette coopération de la forme intentionnelle, je réagis et je connais dans une réceptivité parfaite où je reçois cette forme qui vient de moi, qui vient pas de l'extérieur. Oui, elle vient d'extérieur par l'expérience. Et je la reçois comme une forme qui est abstraite. Il y a une certaine abstraction.